Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 22 février 2018. Nous sommes maintenant à 26 jours du printemps.
Oh!
Êtes-vous heureux?
Oui, on a hâte.
Alors, Monique Kirouac au micro. Avec moi en studio, Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour, Marie. Et Yvan.
Bonjour.
Deslauriers, n'oublions pas son nom de famille. Et bien, Mathieu. Alors, aujourd'hui, chers collaborateurs, vous nous présentez vos sujets pour la prochaine heure?
Oui, bien sûr. Alors, moi, je vous parle d'un choix qui n'est pas vraiment un choix. Mais bon, est-ce qu'on envoie un enfant en difficulté dans une classe ordinaire ou dans une classe spécialisée?
Oui.
On va voir la différence entre les deux. Et ensuite, je vous présente un article où on présente les différences et les ressemblances entre douance et autisme.
Oui, des sujets très intéressants.
Merci.
Mm-hmm. Et Yvan?
Moi, c'est deux sujets géographiques ce matin.
Oui.
Alors, en premier lieu, je ne vous amène pas patiner sur le lac des Castors.
D'accord.
Et en deuxième lieu, je vous amène skier et faire de la raquette en Gaspésie.
Oh là là, c'est excitant tout ça. Mm-hmm. Alors moi, comme premier sujet, je vous parlerai de la justice pénale et des réseaux sociaux. On aura bien sûr en toile de fond, on pensera au mouvement hashtag moi aussi.
Oui.
Et le deuxième article, alors de la Gaspésie, ben, nous passerons au Soudan. Nous découvrirons...
quelques degrés de différence.
C'est pas trop loin. Hein? Alors nous découvrirons une cité perdue.
Ah.
Sûrement, c'est perdu.
Ah, oui. Alors, Yvan, les changements climatiques nous atteignent aussi, et ce, sur le lac des Castors.
Jusqu'au lac des Castors.
Jusqu'au lac des Castors.
Qui n'est pas un lac naturel, en passant.
Ah!
Ça vient pas, hein?
Et où il n'y a pas nécessairement de castors.
Et il n'y a pas de castors.
Ah ben ça, c'est sûr. On ne les a pas vus. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de barrage nulle part.
Non.
Alors. L'article que je vais vous lire, ça s'intitule... C'est un éditorial. C'est le canari dans la mine sur le Mont-Royal.
Dis-moi, un canari dans la mine...
Ah, je vais vous l'expliquer.
Ah, tu vas nous l'expliquer.
C'est écrit dans...
D'accord.
C'est un éditorial d'Alexandre Sirois dans la presse du 27 janvier 2018. Donc, il y a presque trois semaines, un mois. La fermeture définitive de la patinoire naturelle du lac aux Castors n'a pas fait la manchette. Pourtant, l'événement est préoccupant parce qu'il nous rappelle que les changements climatiques menacent à la fois notre environnement et nos infrastructures et parce qu'une une tradition montréalaise a du plomb dans l'aile. Les changements climatiques ont trop souvent quelque chose d'abstrait.
Mm-hmm.
Bien sûr qu'on sait que les ours polaires sont menacés, que la glace fond trop rapidement au pôle Nord, que des habitants des îles Fidji risquent fort de devenir des réfugiés. Mais le mois dernier, l'impact à Montréal du dérèglement climatique a été très concret.
Ah oui?
Luc Ferrandez a annoncé, de façon un peu quelque peu cavalière,
Est-ce une surprise?
Oui, je ne sais même pas pourquoi on le mentionne. La fermeture définitive de la patinoire naturelle du lac aux Castors. Le nouveau responsable des grands parcs au comité exécutif a indiqué que cette patinoire n'a été ouverte que 37 jours l'an dernier, comparativement à une centaine jadis.
Ah oui.
Par ailleurs, les récents travaux de réaménagement compliquent la vie aux autorités municipales quant à son entretien. Les ennuis de cette populaire patinoire sont le reflet d'une tendance lourde et préoccupante. Elle a été, entre autres, confirmée il y a une demi-douzaine d'années par des chercheurs des universités McGill et Concordia. Là, je suis dans ta table, Monique.
Oh.
Qui estimaient que les patinoires extérieures étaient menacées de disparition. Ces prédictions déprimantes ont malheureusement été corroborées par des professeurs de l'Université Wilfrid Laurier en Ontario, avec un projet particulièrement original, Rink Watch, mm-hmm. ou bien surveillance des patinoires, ah, si oui, on oui. traduit littéralement.
On sort nos longues vues.
Oui, c'est ça. Est une initiative citoyenne qui permet de recueillir les informations sur près de 1500 patinoires au Canada et dans certains États américains. Robert McLemmon, qui enseigne la géographie à l'Université Wilfrid Laurier en Ontario, estime qu'au cours des prochaines décennies, la saison de patinage à l'extérieur sera raccourcie de 30 à 40 % au Canada. Si on dispose actuellement de 8 ou 10 semaines pour créer une patinoire, et patiner dessus, évidemment, dans les prochaines années, on en aura plutôt entre 4 et 6. Puis là, il faut se demander, est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là?
Bien sûr, oui.
C'est loin d'être anodin. On aurait tout avantage à considérer les patinoires comme les canaris dans la mine du dérèglement climatique. Ces oiseaux dont la mort, jadis, prévenait les mineurs qu'ils étaient en danger.
Ah, voilà la signification.
Voilà
Merci
la réponse.
Beaucoup.
S'il y a une lueur d'espoir, c'est que la Ville de Montréal a compris, il y a quelques années, qu'elle ne doit pas uniquement lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, elle doit aussi, avec empressement, chercher à s'y adapter. Chaleur accablante, pluie abondante et inondations, l'administration de Denis Coderre avait pris le taureau par les cornes, publié un plan d'adaptation pour les années 2015 à 2020 et commencé à agir. Dans le cas spécifique des patinoires, elle avait même annoncé en novembre dernier l'investissement de 7,3 millions sur 3 ans pour l'ajout d'une poignée de patinoires réfrigérées à Montréal. Des patinoires qui ressemblent aux patinoires bleu-blanc-rouge.
Ah oui, d'accord.
Implantées par le Canadien de Montréal. L'administration Plante semble, elle aussi, prendre l'adaptation au changement climatique au sérieux. Le mois dernier, elle a discuté de ce dossier crucial avec Alain Bourque, directeur général d'Ouranos. Ça, c'est un consortium dont, dans l'article, on dit dont c'est la spécialisation. C'est un consortium qui se spécialise dans le réchauffement climatique, ouais. avec qui la Ville collabore déjà. Tenir compte des impacts à venir des changements climatiques sur ses infrastructures, ses initiatives et ses services aux citoyens est fondamental pour une ville. L'autorisation de nouveaux projets ne devrait-elle pas être conditionnelle à une évaluation des facteurs de risque liés au changement climatique? La question mérite d'être débattue plus tôt que tard. Parce que planifier en tenant compte du fait que le climat se dérègle permet de limiter les perturbations des milieux de vie et des activités économiques, soulignait Ouranos dans un rapport rédigé pour les municipalités du Québec il y a quelques années. Parlant de limiter les perturbations, plutôt que de faire une croix sur la patinoire naturelle du lac aux castors et d'y laisser uniquement la petite patinoire réfrigérée diminuant de beaucoup la capacité d'accueil, n'y aurait-il pas moyen de l'adapter? Cette question-là aussi mérite d'être débattue. Alors, c'était un éditorial d'Alexandre Sirois dans la presse du 27 janvier, « Le canari dans la mine » sur le Mont-Royal, qui parlait de l'arrêt des activités de la patinoire naturelle au lac des Castors.
Ce qui nous attriste beaucoup.
Ben, c'est un pan de notre...
culture.
Oui, qui disparaît.
Oui. Avec un article de Daniel Barry pour le journal Forum de l'Université de Montréal. L'article s'intitule « La justice pénale à l'heure des réseaux sociaux ». Alors, à l'heure des dénonciations publiques de harcèlement sexuel, les réseaux sociaux sont-ils porteurs d'une nouvelle justice sociale qui comblerait les lacunes de la justice pénale? C'est la question d'actualité sur laquelle se sont penchés les participants des rendez-vous juridiques de la Faculté de droit de l'Université de Montréal le 17 janvier dernier. Le débat a été alimenté par les réflexions de Pierre Noreau, de Pierre Laroche et d'Anne-Marie Boisvert, qui sont tous trois professeurs à la Faculté. Alors, Pierre Noreau nous dit que la justice peut être à sa façon conçue comme un espace de délibération. Elle offre du moins un forum qui permet d'entendre des positions opposées. Malgré le cadre serré où se tiennent les échanges, elle renvoie une certaine idée de la démocratie délibérative dans la mesure où elle donne la possibilité pour la société de délibérer sur ce qu'elle juge important pour elle. Pour le professeur, cela requiert trois conditions. La première, le pouvoir démocratique nécessite qu'il y ait des contre-pouvoirs. La deuxième, la délibération dans le sens contemporain du terme demande aussi la reconnaissance d'une véritable liberté de pensée et d'action. Et la troisième, elle est finalement impossible sans la liberté de parole. Les réseaux sociaux remplissent-ils ces conditions? Le juriste en doute. Sur Internet, il exerce aussi un certain contre-pouvoir pour les marchands, dont les services sont évalués par les clients, estime-t-il. Mais pour les enjeux globaux, le contre-pouvoir n'est pas assuré. Internet crée des agrégats qui imposent la tyrannie de la majorité et où il n'est pas possible d'être en désaccord. On connaît les limites du débat judiciaire, mais si Internet constitue un outil extraordinaire de délibération, les conditions pour qu'il contribue à la démocratie restent à établir, selon le professeur. La création d'instances intermédiaires de médiation sociale, on en avait déjà parlé, à mi-chemin entre les réseaux sociaux et le système judiciaire, demeure réalisable à ses yeux, mais ces mécanismes sont encore au balbutiement et à mettre en place. Sur Internet, Pierre Noraud craint le dérapage que pourraient causer ceux qu'il appelle les entrepreneurs moraux, c'est-à-dire ceux qui, sur le mode de la dénonciation plutôt que de la délibération, cherchent à imposer une nouvelle conception de la vertu. Pierre Larouche a souligné de son côté que le mouvement hashtag moi aussi a pour effet positif de permettre aux victimes de s'exprimer, de se rendre compte qu'il y a d'autres victimes et partant de se libérer des relations de pouvoir qui les mènent souvent à garder le silence sur les abus qu'elles ont subis. Les usages des réseaux sociaux permettent ainsi de pallier une déficience, souvent signalée du système judiciaire en amont de la procédure pénale comme telle, le manque de réceptivité des autorités policières et du ministère public envers les plaintes des victimes. Par contre, en aval, lorsqu'il s'agit de trancher et de sanctionner, le recours aux réseaux sociaux présente des risques. Ces réseaux sont caractérisés par certains phénomènes connus des chercheurs, soit les effets de cascade et les caisses de résonance. Dans le premier cas, c'est-à-dire les effets de cascade, une fausse unanimité est suscité parce qu'il semble préférable de suivre l'opinion qui domine. Si l'effet de cascade est brisé par un fait qui provoque une cassure au sein des réseaux sociaux, alors des caisses de résonance peuvent apparaître dans ces cas, des camps se forment et la dynamique des réseaux sociaux fait que les membres respectifs de ces camps ne sont soumis qu'au point de vue de leur propre camp. Par exemple, il pourrait y avoir un camp qui croit toujours la victime et un camp qui est toujours sceptique. Que cela découle de la fausse unanimité de l'effet de cascade ou d'un durcissement des positions par les caisses de résonance, toute discussion devient impossible. Maintenant, Anne-Marie Boisvert, de son côté, n'a pas craint d'aborder de front le sujet brûlant que constitue le mouvement hashtag moi aussi, devenu l'exemple phare de la nouvelle justice sociale, sans manquer d'apporter les clarifications qui s'imposent. Tout en précisant ne pas porter de jugement de valeur sur celles qui dénoncent les agressions sexuelles dont elles ont été victimes, la juriste a indiqué que le mouvement hashtag moi aussi révèle une insatisfaction à l'égard du système de justice, mais aussi une méconnaissance de ce système envers lequel le public nourrit des attentes démesurées. La raison d'être du droit pénal, je cite Mme Boisvert, est d'étiqueter et d'isoler des individus pour les punir. Ce n'est pas un mécanisme de réparation des torts, mais de punition. À son avis, le mouvement hashtag moi aussi revendique que les victimes soient toujours crues et que la parole des victimes entraîne une condamnation. Il est dangereux d'abandonner la présomption d'innocence et cela pervertit le système judiciaire. Le droit criminel, elle est criminaliste, n'est pas un outil thérapeutique ni un espace de discussion entre agresseurs et survivants, nous a-t-elle fait remarquer. Anne-Marie Boisvert a également déploré que le discours public actuel mette tous les actes sur un même pied et ne nomme pas clairement les vraies affaires. Pour certains, l'expression « inconduite sexuelle » va de l'effleurement non désiré d'une fesse jusqu'au viol. Le viol est plus qu'une inconduite, a-t-elle fait valoir. Pour d'autres, tout est un viol. Et dans un cas comme dans l'autre, la stigmatisation parfois, pardon, est la même, peu importe la gravité du geste. Alors, si les propos de ces juristes peuvent s'inscrire à contre-courant de la rectitude ambiante, ils semblent avoir été assez bien accueillis par l'assistance. Et cette rencontre de janvier était animée par Isabelle Richer, journaliste à Radio-Canada. Alors, c'était un article de Daniel Barry pour le journal Forum du 29 janvier 2018.
Merci.
La première fois qu'on m'a mis à l'écart, on m'a condamné pour un vol de char. Un peu plus tard, celui d'un dépanneur et d'un taxi et d'une guitare et d'une caisse de liqueur. La centième fois, c'est écrit au dossier un emprunt sans signature. J'avais un foulard sur la figure. C'était l'été, va donc pendre, on m'a remarqué, va donc chier. Y a pas été long l'été dernier. J'avais tout pénitencier, vaillot par la pénitence, c'est mon métier. Des coups parfaits, jamais à la bonne heure. Des coups fumants en pays non fumeur. J'avais le don d'avoir les bonnes idées, mais pas celui de les réaliser. J'habite au pénitencier, voyous pas la pénitence, c'est mon métier. La rage que j'ai s'éteindra pas à la vitesse où je suis parti lent. J'habite au pénitencier, la pénitence, c'est mon métier. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est être réaliste. Je ne suis qu'un grand récidiviste. Pareil à tous les policiers, je vis du crime organisé. J'en ai mangé des tas de sa gueule, faut dire qu'ici je suis pas tout seul. Quand je regarde où je suis rendu, je crois moins dans les coups de pied dans le cul. Je suis rien qu'un gars ben ordinaire qui a manqué l'amour de son père. Je suis rien qu'un gars, faut pas s'en faire, qui a manqué d'amour comme son père. J'habite au pénitencier, voyons pas la pénitence, c'est mon métier.
Pénitencier,
la pénitence, c'est mon métier.
Pénitencier,
la pénitence, c'est mon métier.
Ah, c'était Edgar Bory et sa chanson « C'est mon métier ».
Alors Marie, vous nous présentez des questions que se posent certains parents face à leurs enfants.
Oui, questions classement de leurs enfants.
Oui, questions fondamentales. Et...
Oui. Pas facile à accepter, pas facile à vivre. Alors, la question, classe ordinaire ou classe spécialisée, comment choisir, si on peut parler de choix, évidemment. Mm-hmm. C'est un texte de Geneviève Bergeron, qui est professeure et chercheure, et le texte a été publié sur le site aidersonenfant.com le 20 décembre 2017. Lorsque leur enfant a des problèmes d'apprentissage, les parents se posent plusieurs questions sur son cheminement, particulièrement en ce qui concerne son intégration ou non à une classe spécialisée. Comment fonctionne le processus et quel type de classe favorise davantage sa progression? Le choix du placement d'un élève en classe spécialisée ou en classe dite ordinaire représente une décision cruciale qui n'est pas sans soulever différents enjeux et questionnements. Le Conseil supérieur de l'éducation a d'ailleurs publié un avis sur l'opérationnalisation de l'éducation inclusive, dans lequel il s'intéresse notamment aux conditions à réunir pour tirer le meilleur parti de la diversité et faire progresser chaque élève à son potentiel maximal. Il importe d'abord de préciser que le ministère de l'Éducation préconise l'intégration des élèves ayant des besoins particuliers en classe ordinaire.
Concept de base.
Concept de base. C'est ce qu'on préconise le plus. Ouais. Le choix d'offrir des services éducatifs en classe spécialisée est normalement effectué lorsqu'il n'est pas ou plus possible de répondre aux besoins de l'élève dans un cadre régulier. Avant d'en arriver à une telle décision, différentes stratégies d'intervention ainsi que des mesures de soutien à l'enseignant et à l'élève doivent avoir été mises en place afin d'aider l'élève à progresser et à réussir en classe ordinaire. Enfin, ce choix devrait être basé sur une évaluation des besoins des élèves et sur une démarche systématique et rigoureuse liée au plan d'intervention. Mm-hmm. Donc, avant quoi que ce soit, il faut que l'élève ait un plan d'intervention.
C'est ça.
Le choix d'un placement en classe spécialisée ne doit donc pas être pris à la légère et doit être précédé d'efforts importants pour diminuer les difficultés observées et soutenir l'insertion sociale de l'élève. La classe spécialisée constitue un espace éducatif qui comprend généralement un plus petit nombre d'élèves afin que les enfants reçoivent un soutien accru. Les enseignants qui y travaillent ont reçu une formation en adaptation scolaire, c'est-à-dire qu'ils sont formés pour soutenir l'apprentissage et la réussite d'élèves ayant des besoins particuliers. De plus, les enseignants et les élèves des classes spécialisées bénéficient de services éducatifs complémentaires, par exemple de l'aide et du soutien d'éducateurs spécialisés ou d'orthopédagogues. Normalement, le placement en classe spécialisée devrait être temporaire et viser la réintégration de l'élève en classe ordinaire. Dans les faits, on constate qu'une majorité d'entre eux ne retournent pas en classe ordinaire, ce qui suscite certaines questions. Vous vous demandez peut-être si la classe spécialisée aura des effets plus positifs que la classe ordinaire sur votre enfant si vous êtes un parent dans cette situation-là.
C'est certainement un volet à considérer.
Oui, c'est très important. Alors, malheureusement, la réponse à cette question ne semble pas faire consensus dans la communauté scientifique. Certaines études remettent en question l'efficacité des classes spécialisées et indiquent qu'elles ne parviennent pas à démontrer leur supériorité par rapport à la classe ordinaire. D'autres études permettent de dresser un portrait relativement positif des retombées de l'éducation inclusive, donc c'est ce qu'on appelle la classe ordinaire, c'est-à-dire la scolarisation de tous les élèves en classe ordinaire, indépendamment de leurs caractéristiques et besoins. Or, l'inclusion suppose le respect de certaines conditions de mise en œuvre et on ne peut confirmer à ce jour qu'elle entraîne toujours des effets positifs. Il n'y a donc pas de garantie quant au type de placement le plus profitable pour votre enfant. De fait, de nombreux facteurs influencent la réussite. Par exemple, l'organisation des services, l'utilisation des ressources au sein de l'école et de la classe, la qualité de l'enseignement, la qualité de la relation maître-élève ou encore le soutien des parents. Ça constitue donc tous des éléments qui peuvent faire une différence. La décision du placement de l'élève revient à l'équipe du plan d'intervention en collaboration avec les parents. Ainsi, votre participation au plan d'intervention est capitale et vous permet de veiller à ce que les décisions soient prises dans le meilleur intérêt de votre enfant. De plus, suivant l'obligation de révision du plan d'intervention, le choix du placement devra être réévalué et le retour en classe ordinaire devrait être considéré. Les services offerts aux élèves peuvent grandement varier d'une école à l'autre et il n'est pas toujours facile de bien comprendre toutes les modalités de fonctionnement. Sachez que vous avez le droit de poser des questions et que chacune d'elles devrait trouver réponse. En voici quelques exemples de questions qu'on pourrait poser aux gens dans l'école dans une perspective de collaboration. Quelles sont les observations, les conclusions ayant mené à ce choix de placement? Quelles interventions ont été mises en place pour aider mon enfant et l'enseignant mm-hmm. en classe ordinaire?
On oublie souvent,
puis il n'y a pas souvent des services, en fait. Quels sont les objectifs à court et moyen terme de ce placement? Quelles interventions sont planifiées? Quelles ressources seront déployées pour soutenir sa réussite en classe spécialisée et favoriser son retour en classe ordinaire? Et finalement, en tant que parent, comment puis-je m'impliquer dans le cheminement de mon enfant? Comment pourrais-je suivre la progression de ses compétences? Alors, je ne sais pas si ça vous éclaire, mais à tout le moins, ce sont des précisions de Geneviève Bergeron qu'on peut trouver sur le site aidersonenfant.com.
Merci beaucoup, Marie. Mmh. Alors, une petite brève, chérie.
Alors, oui, Monique, pour moi, le printemps est arrivé. J'ai reçu mon premier numéro de Vélomag pour cette saison. Et on y lit qu'il y a un casque intelligent maintenant qui est disponible. C'est le casque, le Senna X1 Pro. Qui a le grand mérite de protéger la tête, c'est quand même essentiel, mais est aussi doté d'un système Bluetooth intégré. Vous pouvez ainsi communiquer par interphone avec deux autres cyclistes, écouter de la musique ou les directions d'un GPS et même téléphoner. Ah oui, ça vient aussi avec une caméra.
Bon.
Est-ce qu'on a le temps? Encore? Une toute petite brève, c'est bientôt la relâche dans plusieurs écoles. Alors, une série dans les bibliothèques de Montréal, par exemple, les 45 bibliothèques de Montréal proposent une programmation de 300 activités presque toutes gratuites.
Merci beaucoup. Mm-hmm. Alors, Voix de service magazine se poursuit après la pause et la chanson, bien sûr. On vous parlera de Gaspésie, d'une cité perdue et de l'autisme et des douances. Mm-hmm. Alors, à plus tard. Mm-hmm. Thank you.
I could so much love be inside of you.
T'es dans le regard. You are the sunshine of my life. C'était Stevie Wonder.
Bon, alors après ces beaux mots,
eh oui,
cette belle chanson en fait. Alors je vous amène dans les cités perdues. Alors c'est un dossier qui a été préparé par Bernadette Arnault pour la revue Science et Avenir de janvier 2018. Alors, elle nous fait découvrir, en fait, trois cités perdues. Je vous en présente une aujourd'hui. Alors, sur tous les continents, des chercheurs passionnés traquent aujourd'hui les vestiges de villes englouties sous les flots ou envahies par la jungle. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Doukijel, qui se trouve au Soudan et qui est une... Le titre de l'article, en fait, c'est « Une cité sacrée au temps des pharaons ». Alors, il n'existe aucune autre ville pareille dans le continent africain. Il s'agit d'une incroyable architecture, un ensemble d'énormes bâtiments en terre cuite dont il faut dénouer l'intrication. Démêler l'intrication au fur et à mesure des fouilles s'enthousiasme Charles Bonnet en déployant plans et cartes devant lui à quelques jours d'un nouveau départ sur le terrain. Alors écoutez bien. À 85 ans, voilà déjà plus de 53 ans que l'archéologue suisse parcourt en tous sens le Soudan, situé au sud de l'Égypte, là même où les deux Nils, le bleu et le blanc, se rejoignent à Khartoum.
Je ne savais pas qu'il y avait deux Nils.
Eh bien,
on
oui.
On apprend quelque
chose. Alors, oui, ben, je suis bien curieuse.
Là, il y a Indiana Jones qui va...
Ah, et qui va ressurgir de je ne sais où. Alors, ce spécialiste de renommée mondiale connaît le moindre recoin de ces montagnes de sable qui, au soleil, semblent être de la poudre d'or, comme l'écrivait Gustave Flaubert. Alors, c'est un pays fascinant, autrefois nommé Nubie, et qui fut le grand rival de l'Égypte antique entre 2450 et 1480 avant Jésus-Christ. Alors, M. Bonnet nous dit « Je ne m'attendais pas à découvrir encore de telles merveilles et surtout pas aussi énigmatiques. » On doit à M. Bonnet d'avoir véritablement découvert un autre trésor il y a près de 50 ans, la cité antique de Kerma, qui était la capitale de la Nubie. Alors c'est justement en menant une campagne de fouilles à Kerma que l'archéologue suisse a repéré dès 2010 ce nouvel ensemble qui révolutionne aujourd'hui tout ce que les spécialistes pensaient savoir de l'antique civilisation nubienne. À moins d'un kilomètre du chantier de Kerma, j'ai été attirée par une étendue en cours d'aménagement sur une colline où des paysans souhaitaient étendre leur culture. En regardant attentivement les lieux, M. Bonnet a compris qu'il y avait un autre établissement extraordinaire. Doukijel, D-O-U-K-K-I, un autre mot, G-E-L, c'est-à-dire la colonne rouge. La colline rouge en vieux nubien.
C'était pour le dire.
Oui, je savais que tu savais ça.
Tu maîtrises bien le vieux nubien.
Oui, c'est ça. Depuis, les relevés ne cessent de laisser les équipes pantoises tant la configuration des lieux est inédite. Nous sommes face à une ville complètement folle avec d'immenses bâtiments circulaires et ovales en forme de marguerite.
De marguerite?
Oui, vous pourriez effeuiller la marguerite. Je l'aime, je l'aime pas. L'un des édifices faisait 55 mètres de long et était soutenu par 1400 colonnes. Mmh. Cette architecture sophistiquée utilisait le bois et la brique crue, autant que le limon durci rapporté des rives du Nil, dont le lit était alors tout proche. Alors, il s'agit d'une architecture mixte, égyptienne, autant qu'autochtone, c'est-à-dire nubienne. À quoi pouvait servir un tel ensemble? Alors, les spécialistes sont parvenus à dater les ruines actuellement relevées de 1800 avant Jésus-Christ, environ. Soit une époque antérieure à l'occupation par les armées égyptiennes de la Nubie pendant 300 ans. Cette région, située en amont de la troisième cataracte du Nil, avait en effet aiguisé l'appétit des pharaons de la 18e dynastie, attirés par l'or, les bois précieux, l'ivoire, mais aussi les esclaves ramenés du cœur de l'Afrique. Autant de routes commerciales stratégiques que les Nubiens tentèrent pendant des siècles de leur rendre inaccessibles depuis Karma et Doukigel. Pour preuve, les vestiges retrouvés de fortifications. La thèse avancée par Charles Bonnet tend à démontrer que cette partie de la Nubie était à l'origine défendue par une coalition de monarques africains comprenant des populations du Darfour et du centre du Soudan. Un verrou que les Égyptiens eurent à cœur de faire sauter. Ainsi, le pharaon Toutmosis Ier, arrivé le premier dans la région.
Comment il s'appelait?
Toutmosis.
Toutmosis.
T-H-O-U-T-M-O-S-I-S.
Ah,
ma prononciation n'est peut-être pas adéquate.
Oh. Mais, moi, c'est le Nubien que je comprends.
Ah, d'accord. Alors, arrivé premier dans la région, il avait ainsi créé un menenou. C'est un bâtiment fortifié constituant une sorte de poste avancé en territoire ennemi. À tenter de voir tout ce que ça comporte. Mm-hmm. Autour de cette structure, les archéologues ont retrouvé traces de tout ce dont les Égyptiens avaient besoin pour fonctionner en tant qu'armée d'occupation. Des palais, un immense atelier de potiers, des zones de stockage avec silos, ainsi que des temples, dont trois étaient situés côte à côte. Une petite ville, quoi. Alors, c'était une occupation à long terme.
Oui. Hein?
Autant de trouvailles qui devraient faire l'objet de nouvelles publications. Alors, des travaux conduits par l'équipe ont permis de remonter jusqu'à l'antique Doukigel. Il s'agit à l'origine d'une ville cérémonielle, d'où on faisait ressurgir les temples, les autels et les sanctuaires autochtones aux formes circulaires. Un site dont nous n'avons pour l'instant révélé qu'à peine 12 hectares, soit seulement 10%. Alors, après le dégagement des niveaux d'occupation récents...
Ce qui me fait rire, c'est qu'il a dégagé 10%, mais il y a 85 ans, le monsieur.
Oui, c'est ça. Alors, quand même. Alors, Charles Bonnet pense qu'il pourra remonter, pour les plus anciens, jusqu'à l'installation première de Doukigel, qu'il situe aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors là, on est à 1800, donc il veut creuser encore plus pour arriver à 3000 ans. Mais d'ici là, bien d'autres coups de théâtre pourraient émerger de cette cité aux architectures en corolle. Alors, c'était un article de Bernadette Arnault pour la revue Science et Avenir de janvier.
Science 2000... et Avenir.
Et Avenir, oui, mais c'est...
Son 1800 avant Jésus-Christ.
Oui, mais c'est qu'on y traite beaucoup d'archéologie et de paléontologie, et etc. Alors, voilà. Alors, Yvan, tu nous amènes du Soudan, on s'en va en Gaspésie, dont certaines personnes sont, je pense, très amoureuses.
Oui, et très spéciales.
Oui.
Alors, je vous parle d'un article écrit dans mon fameux carnet d'endorphine, bien pas à moi, mais le carnet d'endorphine de Geneviève Lefebvre.
C'est ta possession. Je
suis en train de me l'approprier. Hein,
oui.
Dans la presse du 14 février 2018, et j'insiste sur la date, parce que présentement... l'événement dont je vous parle, la traversée de la Gaspésie, c'est en cours présentement, c'est du 17 au 24 février. Alors, là, il faut vous remettre dans l'esprit qu'on... Il y a une semaine, c'est moins pire que l'article précédent où il fallait revenir à 1800 avant Jésus-Christ.
Oui.
Quand même. Dans quelques jours, je pack mes petits, mes raquettes puis mes skis et je monte dans l'autobus en direction de la Gaspésie. À Matane, je vais retrouver le son de l'accordéon, les rires shootés aux endorphines, la rincée de Radoun, le gin local, qui décrasse, et les grosses étreintes d'ours de la gang de la traversée de la Gaspésie. Là-bas, j'aurai froid, j'aurai mal, j'aurai le cœur qui bat à 1000 palpitations à la minute et le souffle coupé autant de fois. Mais dans ces fjords, ces chics et ces chocs, je serai heureuse. En ce jour de la Saint-Valentin, je l'avoue sans détour, mon coup de foudre de 2017, c'est une péninsule. D'elle, je prends tout, la sueur, le sang, les larmes et le fait que l'amour à distance, c'est dur sur le cœur. La grande entremetteuse de cette histoire d'amour hors norme, la sorcière qui gère sa traversée de la Gaspésie, comme on gère une agence de rencontre, grand amour à la clé et flasque de Radoun dans le pack-sac, c'est Claudine Roy. C'est elle la fondatrice de la traversée de la Gaspésie. En bottine, ça c'est l'automne, c'est au mois de septembre prochain d'ailleurs, j'ai regardé les dates parce que ça me tentait vraiment, mais j'ai déjà un engagement, c'est vraiment plate.
Non, mais t'as pas les bottines.
Ah, oh, ça
se trouve.
Ça se trouve. Je vise déjà 2019-20. OK, je recommence. En bottine, en ski, en raquette, alouette. Bientôt, on va la voir nager avec les gros phoques noirs qui viennent mémérer en troupeau dans une crique du parc Forillon. C'est à cause de Claudine qu'au plus beau de l'automne, j'ai grimpé le mont Xalibu, dévalé les sentiers escarpés du mont Albert et slalomé entre les crottes d'ours du parc Forillon, le cœur exalté comme une héroïne des sœurs Brontë. C'est à cause d'elle aussi que j'y retourne au cœur de l'hiver et qu'une fois de plus, je me déchirerai les jambes à skier par mont et par vaux sur toutes les cimes des Chic-Chocs, les cils frisés de frimas, l'étincelant bleu du ciel en bar open. T'as bien réussi ton coup, ma Moses. Remarquez, on se fait tous prendre. Claudine est minuscule, c'est une ratoureuse. D'abord, quand elle te regarde, elle a beau te flasher un sourire radieux, elle te scanne l'âme.
Wow.
En 3 secondes, elle sait exactement de quoi t'es fait. Drette là. C'est intimidant. Ensuite, en vieux running et sans bâton, cette jeune biquette de montagne à l'aube de la soixantaine te grimpe le mont Albert comme d'autres vont luncher au Saint-James. Jase avec une, discute avec l'autre, le regard laser en vision 360 tout le long. Avec elle, on ne laisse personne derrière. Et comme elle est drôle en plus, tu sais plus si t'as mal au plexus à cause de l'effort ou de son humour mitraillette. On pense, au grand naïf, partir en expédition pour 6 jours. On se croit en voyage de sport à grimper des montagnes et à se mesurer avec nos limites. On est persuadé qu'on en sortira indemne comme les autres fois. Mais dans les faits, et ça tu le sais pas encore, tu viens adopter un pays. Dans le temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, là, j'ai pas mis l'air là-dessus, là, mais les vieux disaient qu'on n'était jamais propriétaire d'une terre avant de l'avoir marché. Une clé fondamentale que la belle Claudine a comprise depuis longtemps. Elle qui sait très bien que le sentiment d'appartenance, ça se développe pas dans un salon et que pour l'avoir au cœur, il faut l'avoir dans les jambes. Et elle ne va pas la brader, sa péninsule. Oh non! Elle va te l'ancrer dans le ventre, une racine à la fois, une roche à la fois, un escarpement à la fois, jusqu'en haut. C'est en marchant une terre qu'on se l'approprie, qu'on a envie d'en prendre soin et qu'on la porte en soi comme un virus indélogeable qui nous condamne à la plus belle des maladies, le désir de revenir. J'arrive, Claudine, j'arrive! C'était dans le carnet d'endorphine de Geneviève Lefebvre, dans la presse du 14 février, Claudine Roy, la Gaspésie au cœur.
Merci. Alors Marie, tu vas nous distinguer deux réalités que l'on confond parfois.
Que l'on confond parfois. Autisme et douance sont-ils liés? C'est le titre de ce texte d'Isabelle Audet qui a été publié dans la presse le 21 novembre 2017. Plusieurs clichés sur l'autisme et la douance amènent parfois le grand public à confondre l'un avec l'autre. Dans une conférence organisée par l'organisme Haut Potentiel Québec, le psychiatre Laurent Motron, psychiatre, on vient de le dire, et chercheur à l'hôpital Rivière-des-Prairies, a récemment déboulonné certains mythes. Car pour quiconque n'est pas spécialiste, certaines personnes autistes ressemblent à s'y méprendre à des surdoués. Intérêts particuliers, expertise dans certains domaines, anxiété, difficultés sociales, le portrait qu'on se fait généralement de l'autisme et de la douance nous ramène souvent à ces caractéristiques communes. Il y a 30 ans, dit le docteur Motron, on refusait de poser le diagnostic d'autisme si la personne était d'intelligence élevée. Aujourd'hui, on est complètement dans le contraire. Les gens ont cette espèce de croyance que si une personne est autiste, elle doit forcément avoir des dons cachés. Or, c'est là qu'on se trompe. L'autisme et la douance sont deux éléments absolument distincts, souligne le spécialiste. On retrouve donc chez les autistes des personnes dotées d'une intelligence hors du commun et d'autres qui présentent un QI tout à fait dans la norme. Ce qui brouille les cartes, ce sont les intérêts particuliers que développent les personnes autistes, et ce, dès la petite enfance. Par définition, un autiste est meilleur dans certaines choses que dans d'autres, résume le docteur Motron. Ainsi, certains autistes peuvent présenter un retard important de langage, se développer de façon normale dans d'autres sphères et se montrer particulièrement talentueux dans certains domaines. Et dans certains intérêts particuliers, ces jeunes autistes peuvent se montrer extraordinaires ou pas. C'est indépendant, souligne le psychiatre. Il faut distinguer le QI global et les performances dans un domaine donné. Si on définit la douance comme l'extrême de la courbe de distribution de l'intelligence, eh bien, il y a probablement autant d'autistes surdoués que de non-autistes surdoués. Mais y a-t-il une plus grande prévalence de douance chez les autistes? Non, il n'y en a pas. C'est un cliché. Il n'y a pas plus de génie chez les autistes, mais dans certains domaines particuliers, il n'y a à peu près que les autistes qui arrivent à avoir un très, très haut niveau. C'est ça qui est particulier, indique le docteur Motron. Le médecin ajoute que c'est à l'école qu'il est difficile de distinguer certains jeunes autistes de leurs camarades dotés d'un haut potentiel intellectuel. L'autisme étant un spectre, plusieurs enfants autistes présentent des traits plus ou moins évidents pour les non-spécialistes. Ça va se ressembler dans un sentiment de différence avec les autres. Le surdoué classique va trouver que les autres ne sont pas très intéressants et va chercher désespérément des adultes pour discuter. Il va trouver l'école complètement inintéressante. L'enfant autiste de haut niveau de fonctionnement va généralement nous dire qu'il a toujours eu un petit soupçon de ne pas être comme les autres. Puis, par exemple, à la préadolescence, quand le groupe devient la chose la plus importante pour les jeunes de cet âge, eux, ils regardent ça presque de manière anthropologique. Ils vont dire « Ah, les autres, ils sont comme ça. » Un enfant surdoué aura toujours eu la même distance par rapport aux autres. Il va trouver les autres bêtes, mais ce ne sera pas pour leur aspect social, mais pour leur niveau intellectuel. C'est le docteur Motron qui parle. Ainsi, pour des parents, une recherche sur Google ne suffit pas et l'aide de spécialistes s'avère cruciale si ces différences avec les autres amènent une souffrance chez leur enfant. Le psychiatre Laurent Motron estime qu'une dizaine de fois par année, tout au plus, il doit faire chez de jeunes patients la distinction entre la douance et le trouble du spectre autistique, ou encore confirmer la présence des deux conditions. Mm-hmm. Alors voilà pour ce texte d'Isabelle Audet. Et je termine, parce qu'il me reste un petit peu de temps.
Oui.
On s'en va dans une autre direction.
Un autre univers.
Oui, c'est ça. Alors très brièvement, « Attention, petits yeux fragiles », c'est un texte d'Isabelle Morin dans la Presse Plus du 20 février. « Des yeux qui piquent, une vision floue et une sensibilité à la lumière sont parmi les symptômes associés à l'utilisation courante d'écrans électroniques. Dans le cas des enfants, le risque de développer une myopie s'ajoute également à ces effets indésirables, prévient l'Association canadienne des optométristes, l'ACO. Pour prévenir des problèmes oculaires, l'ACO recommande de ne pas exposer les enfants de 0 à 2 ans aux écrans et de ne pas dépasser une heure dans le cas des 2-5 ans ou 2 heures pour les 5 à 18 ans.
Ah, ici, là,
5
wow.
à 18
on
ans,
est très loin
deux
du
heures.
Oui, c'est ça, un film par jour.
Wow.
Des pauses.
Peux-tu nous donner les moyens pour faire ça?
Oui, non, on n'est pas là ici. Des pauses devraient idéalement être prises toutes les 30 minutes ou minimalement toutes les 60 minutes. Étant donné que la lumière naturelle est nécessaire au développement de l'œil et à la prévention de la myopie, les parents devrait également privilégier les activités passées à l'extérieur lorsqu'il fait encore clair, et ce, à raison de 2 heures par jour. Protéger leurs yeux des rayons ultraviolets demeure une préoccupation, mais les bienfaits de la lumière de l'extérieur sont préservés, même avec des lunettes de soleil. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose qui nous aide à
mettre ça en application.
À mettre ça en application, oui. Mais durant la relâche, donc, il y a plein de choses qu'on peut faire.
Oui, non,
mais...
puis on peut au moins passer 2 heures dehors pendant la relâche.
On peut essayer.
Avec un téléphone intelligent.
Ah ouais. Je sais pas. Oui, Yvan.
Alors, Monique, je te bats aujourd'hui.
Ah bon?
Avec toi, tu
je savais pas qu'il y avait un concours.
Oh, oui, je te le dis.
OK.
Toi, tu avais un archéologue de 85 ans.
Oui.
Alors ici, dans mon fameux Vélomag du mois de mars,
oui.
On souligne que Robert Marchand prend sa retraite sportive à l'âge vénérable de 106 ans.
Ah, mon Dieu, 106 ans!
Oui, le cycliste détenteur du record de l'heure des plus de 105 ans. Ça veut dire que tu pédales une heure, puis tu calcules la distance que tu as faite. Lui, c'est le recordman mondial pour les gens de 105 ans. Ne doit plus fournir de gros efforts selon ses médecins. Mais il pourra continuer à faire du vélo d'appartement.
Wow. Ah, quand même.
Alors, voilà.
Alors on l'applaudit. Marie?
Oui, alors donc, on parle de relâche qui s'en vient, on peut faire du ski de fond, de la raquette, du hockey, on l'oublie parfois, mais les parcs nature de la grande région de Montréal sont tous accessibles gratuitement. Pourquoi ne pas faire une balade en ski de fond au Cap-Saint-Jacques ou au bois de Liesse ou encore de la raquette sur le Mont-Royal, on en parlait, ou au parc de la Visitation? Des sorties au grand air que vous pouvez faire à votre rythme et qui vous reposeront les yeux, tiens, des trop nombreuses activités sur écran. Sinon, rien de plus réjouissant que de se rendre à la patinoire extérieure du quartier avec ses patins, son bâton de hockey pour un match amical avec la faune du quartier.
Ça risque d'être dans la rue même, hein, avec la température.
C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on va juste marcher.
Hein? C'est possible.
Parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les prochaines heures. Non. Alors, je vais vous parler des premiers mammifères.
Bon.
Imaginez.
Toi, tu restes dans tes années.
Oui, ouais, c'est ça. J'ai un concept ce matin. Alors, tant que les dinosaures étaient là, bien, mes chers amis, les mammifères préféraient vivre la nuit. Donc,
ah ben oui.
Nos mammifères étaient nocturnes. Une façon de se protéger, estiment des paléontologues de l'Université de Tel Aviv en Israël et de l'University College de Londres au Royaume-Uni. Pour aboutir à cette conclusion, ils ont étudié 2415 espèces de mammifères. Alors, le passage à la vie diurne ne se serait fait que peu à peu. les primates siméens, c'est-à-dire les singes, ouvrant la voie à ce nouveau mode de vie.
Alors, on fait un coup de chapeau à Jean Dejax, qui ne regarde pas des écrans, lui, qui, dans les 10 dernières années, a loué 20 000 vélos en libre-service Vélib. C'est les vélos à Paris. La société J.C. Decaux lui a décerné un certificat de meilleur client Vélib. L'homme ne s'arrête pas en si bon chemin. Il continue de rouler en empruntant les vélos Smove & Go, le nouvel opérateur de vélos parisien libre-service.
Un petit mot?
Deux petits mots d'enfant qui commencent par B. Une bagnole, selon Arsène, 13 ans, c'est une vieille voiture où tout fait du bruit, sauf l'autoradio. Et un banquier, selon Aline, 6 ans, c'est un marchand de sous. Bon. J'aime beaucoup celle-là.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à nos collaborateurs, Marie, Yvan et bien sûr Mathieu. Et bonne semaine et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.
Oui, à jeudi prochain.
À jeudi prochain.